Atelier des médias, c'est la deuxième partie sur Radio France Internationale. Dans une vingtaine de minutes, nous retrouvons notre expert en innovation et en ville connectée, c'est Francis Pisani bien sûr. Nous sommes aujourd'hui avec les deux fondateurs de Journalisme Plus Plus, une start-up, une société spécialisée dans le journalisme de données.
L'atelier des médias, la web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon De Creuse.
Et vous.
Pierre Romera, Nicolas Kaiser-Bril, on a parlé dans la première partie de votre côté journaliste-entrepreneur, c'est-à-dire essayer de trouver un modèle économique qui vous convienne, qui convienne aussi à votre manière de travailler, à votre envie d'envisager le journalisme non pas comme producteur de sujets, mais comme producteur de projets sur lesquels on va impliquer différentes personnes en fonction des besoins, en fonction de la nature du projet. Votre grande spécialité, c'est ce qu'on appelle le journalisme de données, le data journalisme. On en a déjà parlé à plusieurs reprises dans l'atelier des médias, on en parle de plus en plus dans le monde, il y a même peut-être un effet de mode sur le journalisme de données. Je veux bien que vous nous donniez votre point de vue sur ce que c'est, sur comment vous définissez le journalisme de données, un point de vue qui est d'autant plus facile à donner que vous faites énormément de formation et de sensibilisation à ce qu'est le journalisme de données. Pierre.
Alors, l'une des particularités du data journalisme, c'est qu'il y a énormément de définitions. Et nous, celle qu'on essaie le plus de développer chez Journalism Plus Plus, c'est d'avoir une bonne maîtrise des outils de manipulation de données pour réussir à raconter des histoires avec, faire du journalisme avec. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avec un tableur Excel, par exemple, on peut produire des graphiques, on peut surtout produire des analyses, et on va pouvoir ensuite faire du journalisme avec cette analyse-là.
Ouais, alors la manière dont on a commencé à parler du journalisme de données à la fin des années 2000, c'est des journalistes ou des nerds comme nous qui ont trouvé des tableurs Excel, des bases de données, et on a commencé à les analyser parce que pour nous c'était normal. On s'était pas encore rendu compte que c'était nouveau. Et les compétences dont on a besoin pour faire ça, c'est, comme disait Pierre, analyse de données, collecte de données. Donc ça passe par la maîtrise de logiciels de tableur. Puis ensuite, il faut raconter l'histoire. Donc il faut savoir comment visualiser ça, utiliser des outils de visualisation, des outils de cartographie. Et c'est toutes ces compétences qui forment le journalisme de données.
Qu'est-ce que c'est les données? Quand on parle de données, ça peut paraître abstrait. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de données, Pierre?
Les données, c'est quelque chose qu'on trouve absolument partout. Ça peut être les programmes télé, ça peut être les résultats des élections, ça peut être toutes les personnes qui commettent des infractions au code de la route. Des données, c'est généralement sous forme d'un tableur, donc un tableau avec des colonnes et sur chaque colonne un nom et des valeurs. Ça peut être toutes sortes de choses. Un tweet est une donnée, un SMS est une donnée. Les données sont partout et c'est pour ça que notre boulot est si important.
Et la particularité des données, c'est que c'est souvent massif, c'est-à-dire un tableau, même s'il a quelques centaines d'informations, eh bien, il y a quand même quelques centaines d'informations, et c'est compliqué de résumer, et puis c'est même compliqué parfois d'envisager l'ensemble des informations.
Et en fait, c'est là qu'on retombe sur une autre définition du data journalisme, qui est en fait plutôt celle de faire collaborer ensemble des journalistes, parce que bon, c'est du data journalisme, mais aussi des développeurs et des designers. Et c'est justement ces deux derniers métiers, développeurs et designers, qui eux savent s'approprier ces bases de données pour en faire quelque chose. Un développeur sait utiliser une base de données des accidents de la route pour produire une carte où on voit où ont lieu les accidents de la route. Un designer, lui, va créer une infographie comme on en voit depuis des années dans la presse. Enfin, alors je dis designer, c'est plutôt graphiste en fait, ou infographiste. Et donc voilà, c'est trois disciplines qui d'un coup fusionnent et qui donnent naissance à cette nouvelle discipline qui est le data journalisme.
En quoi c'est important cette nouvelle discipline? Qu'est-ce que ça apporte au journalisme de nouveau? Je signale au passage que ça fait très longtemps qu'on analyse les données dans le journalisme, notamment à l'occasion des élections, tu en as parlé. Tout le monde se souvient, en France en tout cas, et c'est pareil dans beaucoup de pays, au lendemain d'élections, on va avoir toutes sortes de tableaux, de visualisations, d'infographies qui expliquent ce qui s'est passé la veille, etc., etc.
Le data journalisme, ça apporte plein de choses. Une des premières choses importantes, c'est qu'on est dans une société où il y a de plus en plus de données, comme disait Pierre tout à l'heure, on en trouve partout. Et si le gouvernement, si les entreprises savent les utiliser, il faut que les journalistes soient au niveau et puissent eux aussi faire leurs propres analyses, parce que l'analyse du gouvernement n'est pas forcément la vraie. Des fois, ils essaient de cacher des choses. La deuxième chose que ça permet, qui est aussi très importante, c'est que ça permet de sortir de l'anecdote. Pour prendre un exemple, en octobre 2013, il y a un bateau qui s'est renversé au large de Lampedusa, il y a eu 360 morts, et énormément de journalistes sont allés sur le terrain en disant « Oh, mais c'est horrible, 360 morts, c'est pas croyable ». Il se trouve que nous, on fait une grande enquête depuis un an sur le sujet, où on recense tous les accidents, tous les migrants qui sont morts en essayant de venir en Europe. Et grâce à cette enquête, grâce à cette base de données-là, on est capable de dire que 360 morts, en fait, malheureusement, c'est pas grand-chose. Il y a plus de 23 000 personnes qui sont mortes depuis 13 ans en essayant de venir en Europe.
Ce qui est aussi nouveau, outre la présence des données partout, c'est la puissance de calcul et la facilité d'accès aux outils d'analyse. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on n'avait pas avant. Aujourd'hui, on a tous un ordinateur, voire deux ordinateurs chez nous. On peut tous manipuler facilement 300 000 lignes dans un fichier de données. Et ça, c'est quelque chose qui permet aujourd'hui de s'approprier la donnée que les journalistes ne pouvaient pas faire avant. Et c'est pour ça, en fait, que le data journalisme est un petit peu nouveau. C'est parce qu'il est beaucoup plus facile d'accès.
Tu as dit un peu pourquoi c'est important, mais est-ce que c'est à vos yeux une discipline ou une corde à l'arc de chaque journaliste qui est indispensable aujourd'hui pour pouvoir comprendre le monde, pour pouvoir l'analyser, Nicolas ?
Il y a quelques techniques qui sont indispensables pour chaque journaliste. Calculer un ratio, un taux de croissance, rapporter un nombre à quelque chose d'intelligible pour le lecteur. Aujourd'hui, ouais, c'est indispensable pour tout le monde. Après, on peut toujours, dans l'âge du data journalisme et des ordinateurs, on peut toujours être un excellent photojournaliste, un excellent reporter qui va faire des articles écrits. Il y a de la place pour tout le monde.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque dans ce type de discipline qui va donc s'attacher à des tableaux, à des réalités qui peuvent paraître un peu abstraites, justement un risque de s'éloigner du terrain, de s'éloigner d'un travail de journalisme, d'investigation, où on va aller chercher de l'information là où elle est, et donc par extension une sorte de risque de virtualisation du monde, où on a l'impression de tout comprendre à partir de chiffres, mais on est loin de ce qui se passe en réalité. Pierre ?
Aujourd'hui encore, pour manipuler des données et pour en sortir des histoires, eh ben on va avoir besoin de faire un travail de terrain, on va avoir besoin de les vérifier. Je peux te prendre comme exemple, par exemple, ce qu'on a fait au Cameroun sur les coupures d'électricité. Donc on a lancé une enquête au Cameroun sur les coupures d'électricité pour savoir à quelle fréquence les habitants de Douala subissaient des coupures.
Et donc, ça s'appelle Féol.
Ouais, Féol ou Fuel, ça dépend. Et donc, pour faire ça, on a mis en place une infrastructure pour recueillir des témoignages par SMS. Sauf que, bien évidemment, avoir les données fournies par les utilisateurs, c'est pas mal, c'est même génial, mais c'est pas suffisant. Et donc, pour ça, on est allé sur place et on a commencé à interroger des gens qui subissent des coupures d'électricité tous les jours. Et c'est une manière de vérifier notre info et de sortir, en fait, de cette illusion qui est que le data journaliste, c'est quelqu'un qui reste derrière son écran. En fait, non, c'est un journaliste comme un autre. C'est juste que, forcément, vu qu'il s'approprie un peu mieux les outils modernes, bah, il va passer un peu plus de temps à fouiller un fichier ou à trafiquer un code source.
Pareil, j'imagine, Nicolas, tu as cité tout à l'heure les chiffres des personnes qui sont mortes en essayant de rejoindre l'Europe, 23 000 personnes. Ça, ce ne sont pas des chiffres que tu vas trouver sur Internet sans faire d'enquête.
C'est des chiffres qu'on a été capable de produire en recoupant tous les articles de presse qui ont été publiés sur le sujet depuis 15 ans. Donc si, c'est quand même quelque chose qu'on a fait depuis notre ordinateur.
Autant pour moi alors.
Mais cela dit, tu parlais tout à l'heure de virtualisation. Il faut pas perdre de vue non plus que la société en général passe de plus en plus de temps derrière un écran, sur Facebook, sur les mails, etc. Donc c'est pas du tout virtuel, toutes les actions qu'on fait là, c'est tout à fait réel. Et il faut des journalistes spécialisés là-dedans aussi.
Quels sont les enjeux concernant les données dans le monde ? Parce que donc un journaliste de données a besoin de données. Il y a énormément de données qui sont pas peu accessibles. Quels sont pour vous les grands enjeux en la matière ? Pierre ?
L'un des enjeux qui apparaît énormément ces dernières années, c'est l'open data. C'est-à-dire la transparence des administrations, l'ouverture des données publiques. Ça veut dire que nos gouvernements, nos institutions vont publier les données pour lesquelles on a payé. C'est-à-dire que ben, quand on paye des impôts, on paye pour que certaines bases de données soient produites. Et donc, il faut qu'elles soient aussi publiées et accessibles au public. Donc, c'est l'un des grands enjeux du travail de la donnée et même de la donnée en général. L'un des autres enjeux, ben, ça va être de la rendre accessible et compréhensible surtout. Et c'est là qu'on intervient en fait.
Ouais, il y a toute cette problématique de la numératie. Il n'y a pas trop de termes en français, mais le fait, comme on parle d'alphabétisation, le fait d'être capable de lire et d'avoir un regard critique sur un texte, il faut que l'ensemble des citoyens soient capables de comprendre des données chiffrées et d'avoir un regard critique sur elles. Donc ça veut dire faire un peu de statistiques au collège, être capable de faire des opérations comme ça, de connaître les sources de biais qu'il peut y avoir dans les données. Et ça, c'est des compétences qui, malheureusement, sont pas du tout bien partagées au sein de la société. Enfin, elles sont surtout pas présentes chez le législateur, dans énormément de professions qui devraient pourtant être capables de faire ça.
Où est-ce que vous vous situez par rapport à WikiLeaks, à Edward Snowden, aux révélations d'Edward Snowden ou à Offshore Leaks? Et dans ces trois exemples, il y a eu une masse colossale d'informations confidentielles qui a été révélée. Où est-ce que vous vous situez par rapport à ça, Pierre?
Alors, l'un des premiers points communs qu'on a avec ces organisations et ces personnes, c'est la transparence et la protection des sources. Ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est indispensable à la bonne pratique du journalisme aujourd'hui. Et je dis bien journalisme et pas data journalisme. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est le métier du journaliste de savoir protéger sa source et d'avoir des scandales comme celui de la NSA. Ça renforce l'idée que les journalistes doivent apprendre à maîtriser les outils modernes pour justement ne pas mettre en danger leurs sources et toutes les personnes avec qui ils peuvent travailler.
On est très proche de WikiLeaks et des autres organisations de ce type au niveau philosophique, comme le disait Pierre. Après, on travaille aussi pour WikiLeaks, hein, c'est nos clients. Mais une des différences, c'est que nous, on est une société commerciale, on respecte la loi, on est plus présent sur le long terme. Dans notre objectif, ça reste d'aider nos clients.
Comment votre travail justement peut appuyer ce type de révélation massive? Qu'est-ce que vous pouvez apporter et qu'est-ce que vous avez apporté justement en travaillant avec WikiLeaks ou en travaillant avec d'autres organisations similaires?
Sur les dernières fuites de documents de Snowden et de WikiLeaks, l'une des particularités, c'est que c'était très peu de données quantitatives, mais surtout qualitatives. Donc ça va être des textes assez longs, assez difficiles, sur lesquels il va falloir appliquer ce qu'on appelle du text mining, donc extraire du sens et des informations de manière automatisée. Et donc nous, ça va être ce travail-là qu'on va apporter et qu'on va fournir à WikiLeaks et à d'autres organisations de ce type pour, au final, encore une fois, raconter des histoires et donner du sens à quelque chose qui est massif, énorme et qui n'a pas forcément de sens comme ça quand on le regarde de loin.
Pour ceux qui souhaitent s'initier au data journalisme, pour les futurs journalistes ou pour les personnes curieuses, je sais que vous avez participé à la traduction et même à l'élaboration d'un manuel du data journalisme qui est accessible gratuitement en ligne, c'est ça, Nicolas ?
Ouais, c'est ça. Alors, le guide du data journalisme, c'est quelque chose qui a été commencé lors d'une conférence à Londres en 2011, où, lors d'un atelier, les participants se sont dit, ah, ce serait marrant si on faisait un manuel qui reprend l'ensemble de ce qui s'est fait jusqu'ici dans le data journalisme. Et ça, on l'a traduit en 2012 en français, en rajoutant des exemples spécifiquement francophones, en faisant intervenir des experts francophones, histoire d'avoir un objet qui soit bien adapté pour les Français et pour les francophones.
On va dire quelques mots avant de se quitter de vos projets. On a parlé un peu de votre vision du journaliste entrepreneur, de votre vision du data journalisme qui est votre cœur de métier. Est-ce que tout d'abord, parmi les nombreux, ça fait un peu plus de deux ans que vous existez, est-ce qu'il y a des projets dont vous êtes soit particulièrement fier ou qui sont à vos yeux emblématiques de votre travail? Nicolas.
Moi, ce dont je suis le plus fier, c'est le réseau international qu'on a réussi à tisser, puisqu'on a commencé il y a un an et demi une franchise Journalism +, si bien qu'on a d'autres agences en Europe qui ont repris la même marque et surtout le même manifeste, le même idéal que nous. Donc on en a à Stockholm, Amsterdam et Cologne en ce moment, avec beaucoup d'autres qui sont prévus pour cette année. On est capable d'avoir des relations dans tous les pays. On a aidé le chapitre de Hacks and Hackers, qui est une rencontre mensuelle de journalistes et de développeurs. On a aidé ceux de Pékin, ceux de Ouagadougou. On est très fiers. Enfin, moi, je suis très fier de pas être limité par les frontières nationales, parce que encore une fois, les problèmes qu'on a aujourd'hui, que ce soit la criminalité financière, le réchauffement climatique, sont absolument pas contraints par les frontières nationales. Il faut que les journalistes soient capables de créer des projets de dimension globale.
Toi, Pierre, un projet ou une des réalisations de Journalisme +, dont tu es fier ou qui est emblématique?
Alors, l'un des projets qui nous a pris le plus de temps, je pense, et qui représente l'un de nos plus gros risques, c'est Detective.io, qui est un outil qu'on a mis en place pour aider les journalistes à concevoir eux-mêmes une base de données dans le cadre d'un reportage. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que grâce à cet outil, un journaliste va décrire le sujet de son reportage, ce sur quoi il va enquêter, et nous, on va lui proposer une interface qui va lui permettre de, oui, saisir des données, mais aussi les interroger et éventuellement produire des visualisations de données.
Parmi vos projets, il y en a beaucoup encore une fois, ceux qui m'ont marqué, je les ai notés, je veux bien que vous nous disiez un mot, que vous nous expliquiez comment ça fonctionne. Il y a un des premiers que vous avez fait qui s'appelle le e-diplomacy hub que vous avez fait pour l'agence France Presse, pour l'AFP, qui montre en gros les relations diplomatiques des pays, qui explique un petit peu le monde à travers ce qui se passe sur Twitter, c'est ça ?
C'est ça. En fait, ce projet, c'était un énorme travail de recueil de données. Et là où c'était assez complexe, c'est un recueil de données en temps réel. C'est-à-dire que, encore aujourd'hui, même si cette plateforme, on l'a mise sur pied il y a bientôt 2 ans, je crois, elle continue de marcher, elle continue de recueillir des données sur la vie diplomatique sur Twitter. Et elle permet d'extraire du sens de ces tweets de la vie diplomatique.
Tu me donnes un exemple ou tu peux...
Alors, on a essayé de faire quelque chose de tout bête avec cette application, c'est d'établir un classement d'influence et d'influenceurs. Alors, bien évidemment, tout en haut de la vie diplomatique sur Twitter, il y a Barack Obama avec un compte qui a plusieurs dizaines de millions de followers. Et ensuite, on a des acteurs qui sont peut-être beaucoup moins évidents, mais qui en tout cas marquent la vie diplomatique sur Twitter. Donc, c'est ce que propose cet outil.
Et il y a aussi, il n'y a pas que des classements, on peut suivre toutes sortes de choses.
On peut aussi suivre les thèmes qui sont les plus chauds parmi les diplomates. Donc on a un classement donc des mots-clés les plus utilisés, donc des hashtags. Et on a également les thèmes les plus chauds par pays, puisqu'on arrive à savoir parmi les diplomates de tel ou tel pays quels sont les sujets les plus intéressants ou en tout cas les plus discutés actuellement sur les réseaux sociaux.
Nicolas, dans les choses que tu as produites récemment, alors plus ou moins au sein de J++, il y a un article et une application qui a été publiée par le Guardian qui s'appelle Africa is not a country, donc l'Afrique n'est pas un pays. Tu peux nous expliquer de quoi il s'agit ?
Ça c'est un petit projet que j'avais fait le week-end pour pas perdre trop mon niveau de développeur informatique. Et puis en fait ça a pas mal marché. L'idée c'était de compter dans le Guardian et dans le New York Times le nombre d'articles qui parlaient d'un pays d'Afrique en particulier et de comparer ça avec le nombre d'articles qui parlaient d'Afrique ou d'Africains mais sans jamais préciser le pays.
C'est-à-dire un article où on va utiliser plusieurs fois le mot Afrique sans que ça se réfère à aucun pays d'Afrique, donc sans que tu puisses trouver aucun des pays d'Afrique à côté dans le même article.
Alors il y en a un dont je me souviens qui était un journaliste du Guardian qui parlait d'un rapport de la Banque mondiale, je crois, sur le fait que l'Afrique importait beaucoup de nourriture et il se lamentait du fait, mais quand est-ce que l'Afrique sera autonome sur le plan de l'alimentation, etc. Et en fait, si tu regardes les chiffres, tu t'aperçois qu'il y a la moitié des pays africains qui sont exportateurs de nourriture, et puis l'autre moitié qui en importe. Alors ok, ils en importent un peu plus que ceux qui exportent, mais c'est complètement idiot de parler d'Afrique dans ce contexte-là. Et donc en faisant cette analyse, on s'aperçoit que extrêmement souvent, les journalistes parlent d'Afrique quand ils devraient mentionner un pays ou au moins une région. Et j'avais comparé ça à l'Asie où effectivement on parle rarement d'Asiatique ou d'Asie, on parle de Chinois, d'Indien, d'Indonésien.
Et tu vas pas comparer avec l'Amérique parce que l'Amérique souvent va désigner les États-Unis, donc c'est compliqué, et pas d'Europe non plus parce que l'Europe désigne souvent l'Union européenne, et là encore c'est compliqué parce que ce sont des réalités évidentes.
Ouais, c'est ça, là on pouvait comparer à l'Asie. Et de manière étonnante, le Guardian a été très fair-play puisqu'ils m'ont demandé quelques semaines après de décrire un article pour eux qui reprenait les trouvailles de cette application.
Et si tu as pu d'ailleurs travailler sur le Guardian et sur le New York Times, c'est parce que ces deux journaux mettent à disposition des outils qui permettent d'utiliser leurs données, en toute transparence, c'est ça ?
C'est ça, et ça rejoint ce qu'on disait au début sur qu'est-ce que c'est que le data journalisme, parce que donc là, comme tu le disais, hein, ces deux journaux ont mis à disposition du public des interfaces de programmation qui permettent en fait de programmer un ordinateur pour qu'il aille faire des requêtes dans leur base de données automatiquement, et moi j'avais fait ça vraiment pour m'amuser, parce que je suis un nerd, et un journaliste peut aujourd'hui faire ce genre d'enquête en quelques minutes. Grâce aux interfaces de programmation, grâce à quelques compétences techniques, ça devient vraiment très facile d'utiliser tout ça.
Un mot sur vos projets dont vous pouvez parler à l'avenir, que j'ai pas pu voir passer ou que vous n'avez pas évoqué. Est-ce qu'il y a des choses importantes ?
On a parlé un peu de detective.io et on a de nombreuses enquêtes en cours avec des journalistes aux quatre coins du monde qui commencent à essayer de structurer les informations qu'ils possèdent. Ça peut être sur des réseaux d'influence, sur des relations entre entreprises. Et on espère dans les semaines ou dans les mois qui viennent pouvoir publier, pouvoir centraliser les informations de ces enquêtes-là qui seront publiées dans les médias locaux dans divers pays.
Merci les garçons, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, merci pour votre travail, pour la communauté des journalistes dans le monde. On peut retrouver sur l'atelier des médias des liens vers les différents projets que nous avons évoqués, vers vos sites personnels, parce que vous avez tous les deux des blogs où vous centralisez aussi vos réalisations qui sont très jolies, et vers le site aussi de Journalisme Plus Plus, qui est donc votre projet, qui est un projet collectif, hein. Vous êtes 7 à Journalisme Plus Plus base, et il y a également des Journalismes Plus Plus qui sont en train de naître avec des licences et probablement des licences open source partout dans le monde. Merci, à bientôt.
Merci.
Merci.
L'Atelier des médias, une web émission participative pour la communauté des nouveaux médias. http://atelier.rfi.fr.
You're in tune to the international sound.
Bonjour Francis Pisani.
Bonjour Ziad Maalouf.
Comment ça va?
Très très bien, et toi?
Ça va très bien, merci. Tu te remets de ton tour du monde des villes intelligentes?
Écoute, c'était le premier, il y en aura d'autres, et effectivement, je suis maintenant à Barcelone d'où j'enregistre cette émission, et je vais à Paris régulièrement, donc je suis ici, dans le coin.
Et tu profites de ton séjour barcelonais pour réfléchir sur ce que tu as appris, sur ce que tu as découvert, et tu souhaites aujourd'hui nous raconter une fable.
Écoute, c'est l'histoire de comment Twitter a bouleversé la restauration en Californie et aux États-Unis. Je la trouve tellement emblématique que je me permets de la présenter comme une fable, ce que tu me pardonneras. Et comme dans toutes les fables de geeks, tout a commencé à San Francisco, où trop de gens déjeunent dehors sans avoir le temps de préparer leur gamelle. De fait, nombre d'entre eux s'alimentent auprès de camions-restaurants appelés « food trucks » ou « camions-nourriture », qu'on peut aussi traduire par « camion-bouffe ». Leur multiplication et la qualité de leurs produits, certains affirment faire de la cuisine pour gourmets, est considérée comme une menace par les restaurants qui ont obtenu une réglementation sévère et un prix dissuasif pour l'acquisition de licences. Mais comme toujours, la réponse a été l'économie informelle et l'apparition de camions sans permis, contraints à dégager chaque fois que les inspecteurs montraient le bout de leur nez. Mais ça, c'était avant Twitter qui a tout chamboulé.
Et comment Twitter a tout chamboulé?
Dans un premier temps, les informels s'en sont servis pour avertir leurs clients des endroits où ils se trouvaient à mesure qu'ils se déplaçaient. Dans un deuxième temps, les propriétaires de licences, qui voyaient leur clientèle s'effilocher, se sont mis à utiliser les comptes de leurs concurrents comme base de données de gens auxquels proposer leurs services. Et grâce à cela, le commerce des cuisines ambulantes ne s'est jamais aussi bien porté. Les sites et blogs permettant de les trouver ne manquent pas, tels Frisky Food Trucks, les camions resto fringants. Le plus surprenant pour moi, c'est que même Yelp, le service de classement des restaurants, a une sélection des meilleurs camions de San Francisco.
Est-ce que pour toi, cette manière de faire, cette manière de promouvoir les camions restaurants est une révolution?
Ça n'est sûrement pas une révolution et je te ferai remarquer que j'ai pas utilisé le mot. Mais les implications vont bien plus loin que ce que nous pourrions croire. Ainsi, l'État de Californie vient de légaliser la vente de nourriture faite à la maison. C'est une énorme victoire pour les camions-restaurants, dit un des sites intéressés. Autre image, un mouvement national est né qui s'exprime sur Twitter avec le hashtag Free the Food Trucks ou Liberté pour les camions-restaurants. Il y a même un livre sur la gestion des cuisines ambulantes qui voit dans cette mode une connexion culturelle qui approche cuisine et plats du monde des gens qui mangent quotidiennement sur le bord du trottoir. Et bien entendu, des propriétaires de camions commencent à ouvrir des restaurants entre quatre murs.
Qu'est-ce que tu conclus de tout cela, Francis?
Pour moi, la morale de cette histoire est qu'une technologie qui n'a rien à voir avec une activité industrielle ou commerciale donnée, en l'occurrence la restauration, peut bouleverser plusieurs couches d'entreprises établies. Et comme, une fois le tourbillon lancé, nul ne sait où il s'arrêtera, il faut donc s'y mettre vite pour comprendre, en participant, avant qu'il ne soit trop tard. La morale de cette morale, comme dit la chanson, est que si le software organise la vie et modifie nos villes, certains comme Marc Andreessen, le capital risqueur connu, disent qu'il mange le monde. Nous devons lutter pour des cuisines ouvertes, pour nous faire marmiton chaque fois que possible et pour accommoder les sauces à notre convenance. En clair, suivons des technologies et apprenons même à en créer de nouvelles.
Et d'ailleurs, toute cette histoire me rappelle, j'imagine que tu y as pensé, la lutte entre les VTC, donc ces nouvelles voitures qu'on commande notamment avec nos téléphones portables, et les taxis en région parisienne.
Tu m'as parfaitement compris, mon cher Ziad, comme toujours.
Merci Francis, je rappelle qu'on peut te lire également sur les sites de l'Opinion et de la Tribune, on peut te retrouver sur ton propre site, francispisani.net, et on peut, bien entendu, chaque semaine, retrouver tes chroniques sur ton blog de l'Atelier des médias. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, mais si tu me permets une seconde, je voudrais signaler que ça y est, j'ai tout mis sur mon site et que maintenant, on peut y retrouver les émissions de l'Atelier des médias, tout en haut de la colonne de droite, les articles que j'écris pour tous ces canards, les tweets que j'envoie et même le Tumblr que j'utilise pour les articles qui me paraissent intéressants. Donc, allez faire un tour.
Et tu fais bien de le rappeler. Merci Francis.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
C'était l'émission numéro 333 de l'Atelier des médias proposée par Manon Mella, Raphaël Constant, Dilette Sadaoui, Ismaël Alissat, Jamel Belayachi, Johnny Bissakonou, Simon Decreuse et Ziad Malouf. D'ici deux semaines, nous serons plus de 80 au générique. 80, c'est la somme des blogueurs et des formateurs qui se retrouvent à Abidjan du 2 au 12 mai pour la session annuelle de Mondoblog. Je peux d'ores et déjà vous donner rendez-vous le mercredi 7 mai dans la salle du Latry Events à 14h. Heure locale pour l'enregistrement d'une émission pleine de surprises en compagnie de nos nombreux contributeurs. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles, c'est comme ça qu'on dit. Vous trouverez bien sûr des informations sur le site mondoblog.org. Salut à toutes et à tous, à la semaine prochaine.
C'est fini ou c'est pas fini?
Ah ouais, les bonus.
Les bonus.
Ben, ça continue sur Internet.